Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, demander pardon vaut-il réparation ? Nous demandons pardon à Dieu, aux victimes d'abus sexuels, à leurs familles et à toute la communauté de l'Église pour toutes les blessures infligées aux enfants et aux jeunes personnes ainsi qu'à leurs familles. Cet acte de repentance, on le doit aux évêques catholiques polonais. C'était il y a une dizaine de jours. Une demande de pardon qui s'ajoute à d'autres de la part d'un corps ecclésiastique rattrapé et secoué par les affaires de pédophilie. Pardon, c'est aussi ce qu'a demandé Emmanuel Macron en septembre à la veuve de Maurice Audin, ce militant communiste mort après avoir été torturé par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. La torture, un système légalement institué, selon les mots du chef de l'État, une façon de reconnaître une responsabilité collective et donc de demander pardon au nom de la société française. Alors ces démarches, pour être aujourd'hui fréquentes, n'en sont pas moins spectaculaires. Elles donnent raison aux victimes et, même si elles le font souvent avec retard, ce n'en est pas moins une reconnaissance importante de leur souffrance. Alors un tel processus est essentiel, mais est-il suffisant ? Qu'en est-il de la punition des coupables ? Demander pardon vaut-il réparation ? C'est la question que nous allons aborder ce soir en compagnie de deux invités. Sandrine Lefranc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste et sociologue au CNRS, spécialiste de l'étude des dispositifs de sortie de conflits politiques violents. Vous avez publié, c'était au PUF en 2002, « Politique du pardon » avec un S, politique. Et puis plus récemment, je crois que c'était l'an dernier, avec Sarah Gainsbourger aux presses de Sciences Po, « À quoi servent les politiques de mémoire ?» Pour discuter avec vous, Olivier Abel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, professeur de philosophie éthique à la faculté de théologie protestante de Paris. Je renvoie également alors
de Montpellier en fait.
De Montpellier
actuellement. Merci.
Et je renvoie un ouvrage là aussi ancien. Alors celui-là date de 1991. C'était chez Autrement. Le pardon, briser la dette et l'oubli. Puis beaucoup plus récemment aux éditions Temps Présent. C'était cette année. Violence, paix et réconciliation. Comment dépasser les conflits et le désir de vengeance. Et puis. Nous sommes le dernier jeudi du mois, c'est donc le jour de notre partenariat avec le journal La Croix, en présence de son directeur Guillaume Goubert. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Hervé.
Avec comme à chaque fois l'édition du jour et la question du jour dans La Croix qui reprend celle que nous allons traiter ce soir en compagnie de nos deux invités Sandrine Lefranc et Olivier Abel. Et pour commencer la discussion, je voudrais vous faire écouter un extrait d'un discours de Scott Morrison. Scott Morrison, c'est le premier ministre australien. C'était le 22 octobre dernier devant le Parlement australien et il présentait les excuses de son pays aux victimes de pédophilie.
Aujourd'hui, en tant que nation, nous faisons face à notre incapacité à écouter, à croire et à rendre justice. Aujourd'hui, nous demandons pardon aux enfants vis-à-vis desquels nous avons manqué à nos obligations. Pardon. Aux parents dont nous avons trahi la confiance et qui ont lutté pour recoller les morceaux. Pardon. Aux lanceurs d'alerte que nous n'avons pas écoutés. Aux époux, conjoints, maris, femmes, enfants qui ont dû gérer les conséquences de ces abus, les dissimulations et les obstructions. Pardon. Aux générations passées et présentes. Pardon. Nous nous souvenons des victimes qui nous ont quittés, beaucoup, malheureusement, de leurs propres mains. En tant que nation, nous les avons négligés. Nous les avons délaissés et cela nous couvrira à jamais de honte.
Voilà, à propos du Premier ministre australien traduit par Guillaume Laguigné. Qu'est-ce qui vous frappe le plus, Sandrine Lefranc et Olivier Abel, dans ce que vous venez d'entendre ? Est-ce que ce sont les mots ? Est-ce que c'est l'identité de celui qui les prononce, Sandrine Lefranc ?
Est-ce que je peux commencer en étant un peu critique ? J'ai pas entendu qu'il demandait pardon. Moi, j'ai entendu qu'il était désolé. Sorry. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Il ne demande pas pardon aux victimes. Il dit qu'il est désolé, alors il le fait en reconnaissant des vérités, c'est important. Et par ailleurs, non seulement il ne demande pas pardon, mais il est désolé à l'égard de tous. Donc on n'est plus tout à fait dans la demande de pardon.
Vous êtes d'accord avec ça, Olivier Abel ?
Oui, je ne sais pas, je ne connais pas assez l'anglais pour répondre à ça, parce que le pardon, c'est forcément des paroles... Il n'y a pas de mots exacts pour le pardon, il n'y a pas de mots... Ça change selon les situations, il y a des mots qui... Des mots très faibles qui, dans certaines situations, peuvent dire beaucoup, et des mots très forts qui dans d'autres situations peuvent au contraire être écrasants finalement. Vous voyez, donc je ne sais pas qui exactement, comment c'est perçu dans le contexte. Ça, je pense que ça, de toute façon, ça dépend de la manière dont c'est reçu par les auditeurs et notamment par ceux qui ont été victimes. C'est la réception qui est la plus importante en fait.
En l'occurrence, il y a quand même des mots très forts hein, justement. Alors au-delà du sorry et avec cette complication liée à la traduction de l'anglais vers le français, mais il parle de confiance trahie, de dissimulation, d'obstruction, cela nous couvrira à jamais de honte. Alors est-ce que ces mots-là, justement très forts, vous considérez qu'ils écrasent et que Olivia Bell.
Non, vous avez raison, là c'est vrai que c'est... En prenant le détail de ce qui est dit, non, en effet, je pense que c'est commencer à mesurer, à dire le tort, à dire à dire l'irréparable, à mesurer. Je pense que dans le pardon, ce qui est important, c'est pas que ça répare, c'est que ça exprime d'abord l'irréparable. Je pense que c'est ça le plus important, c'est ce qui fait la crédibilité d'une demande de pardon, c'est ce qui en elle atteste que l'on est en train de mesurer l'irréparable, de mesurer le malheur en quelque sorte qui a été subi.
Il y a d'ailleurs une partie du discours qu'on n'a pas diffusée, mais qui est aussi, me semble-t-il, assez importante, justement du point de vue de la réception que peuvent en avoir les victimes. Scott Morrison a dit aussi ceci, « Je vous crois, nous vous croyons, votre pays vous croit. » Est-ce que demander pardon, donc en l'occurrence Sandrine Lefranc, ça n'est pas d'abord, et est-ce que ça c'est pas le premier intérêt, de donner raison aux victimes ?
Un acte de reconnaissance, oui, ça peut être tout à fait ça. Encore faut-il quand même leur avoir demandé préalablement quelle était leur version des faits, mais je n'ai pas la circonstance exacte.
Là, il y avait une commission d'enquête qui a duré plusieurs mois.
La commission d'enquête royale, effectivement, qui reconnaît que ces pratiques-là étaient institutionnalisées. J'ai regardé ça, 7 à 15% de prêtres sont suspects.
Pas que les prêtres, hein, d'ailleurs, hein. C'était dans un certain d'institutions sportives, culturelles.
Enfin, acte de reconnaissance, oui, acte de reconnaissance sans forcément avoir préalablement consulté les victimes. Donc on est dans une relation de pardon, on est plus exactement dans une politique de la reconnaissance et non dans une politique qui vient recueillir la vérité de la victime.
Guillaume Goubert.
Ces questions se posent depuis maintenant quelques décennies et il y a déjà un certain nombre d'expériences qui ont été vécues sur ce terrain-là. Et je voulais demander à Sandrine Lefranc s'il y a des expériences qui lui ont paru particulièrement intéressantes en la matière, particulièrement fructueuses, productives. On cite par exemple toujours l'exemple de la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud que présidait Monseigneur Desmond Tutu à la demande de Nelson Mandela. Est-ce que cette commission a été véritablement utile ?
Utile, absolument utile sur le plan politique, c'est-à-dire qu'elle a permis un changement réel, elle a permis de remettre les choses à plat, elle a permis de construire un gouvernement partagé entre noir et blanc. Par contre, si vous me demandez si elle a été utile pour les victimes, si elle a permis de reconstruire un nouveau rapport à l'histoire, là je serais plus sceptique. Et je vous rappellerai que le pardon n'était pas en soi la figure majeure, mais on faisait peser sur les épaules des victimes une bien lourde responsabilité. En leur demandant d'entrer dans un discours de pardon et plutôt dans un discours thérapeutique que dans un discours qui était le leur et qui était plutôt centré sur la demande de réparation. Donc oui, quelque chose s'est passé en Afrique du Sud autour de cette institution. Est-ce que c'était une demande de pardon qui valait reconnaissance pour les victimes ? Sans doute pas.
Alors justement, ça renvoie à un des propos que vous tenez dans le journal La Croix aujourd'hui, Olivier Abel. Vous dites « Demander pardon est toujours une parole risquée. Elle ne doit surtout pas chercher une efficacité, ce qui n'est pas très loin de l'utilité. Elle doit être une parole intimidée. » Ça veut dire qu'il ne faut pas, quand il y a une demande de pardon, chercher forcément un effet positif et ne surtout pas, en tout cas, exiger que la personne à qui l'on demande pardon vous pardonne.
Voilà. Et donc, c'est... Justement, ça c'est manifesté que la parole est ce risque à être reçue ou pas reçue et à être reçue d'une manière qui nous échappe. Ça, c'est un point vraiment fondamental. En tout cas, un pardon qui serait le dernier mot, un pardon qui serait une manière de faire taire en disant « ça y est, j'ai demandé pardon, maintenant c'est fini », dans les deux sens d'ailleurs, pardonner aussi n'est pas... Enfin, on peut pardonner et l'autre peut ne pas recevoir le pardon aussi. Hein. C'est parce que ça veut dire que le conflit n'est pas fini, que l'histoire n'est pas finie. Donc le pardon ne peut pas être le dernier mot en quelque sorte. Enfin, en tout cas d'un coup, certainement pas.
Oui, mais moi je repensais par exemple quand on est par rapport à des demandes de pardon qui émanent de collectivités, mais quand on est un jeune enfant, on a fait une bêtise et on va demander pardon à ses parents. On attend bien justement que cette demande de pardon, elle se traduise par l'absence de punition, c'est-à-dire parce que j'ai demandé pardon, je ne vais pas être sanctionné. Est-ce que finalement ce schéma-là, ce mécanisme-là, il ne vaut pas pour l'ensemble des demandes de pardon ?
Tout à fait, tout à fait. Et en plus, la parole qui est fréquente, c'est je ne recommencerai pas. C'est... Donc, il y a les deux. Le pardon est lié. D'ailleurs, Hannah Arendt l'avait beaucoup montré dans Conditions de l'homme moderne, l'articulation entre le pardon et la promesse. Le pardon nous délie d'un passé pour nous relier vers un futur, pour nous retourner vers un futur sous la forme de ce lien qu'est la promesse. Je promets de ne pas recommencer. Et je pense que les deux versants sont très importants. Ceci dit, je crois que l'affaire de Desmond Tutu, enfin de la commission Paix et Réconciliation, il y a un petit épisode extrêmement significatif. C'est cette vieille femme qui soudain dit « Mais vous ne pouvez pas m'obliger à pardonner, vous ne pouvez pas pardonner à ma place. C'est moi qui vais pardonner. » Donc ça a une petite scène très intéressante hein, par rapport à une parole, je dirais, Desmond Tutu est un évêque anglican, etc. Bon, qui représente quand même quelque chose comme une recherche chrétienne du pardon. Et il est tout à fait à sa place. Mais il ne faut pas qu'il court-circuite le fait que personne ne peut demander pardon ni pardonner à la place de celui qui a commis le tort et celui qui est victime.
Sandrine Lefranc.
Le paradoxe dans cette affaire, et au fond, je crois que ça dit tout, ça ne peut pas être une relation de domination. Et au fond, politiquement, le principal intérêt de ces demandes de pardon ou de ces rhétoriques institutionnelles du pardon, c'est d'avoir suscité le refus. Et donc d'avoir permis aux victimes de dire « Et non, c'est moi qui vais décider et je vais vous rappeler que ma vérité c'est celle-ci, que mes demandes sont celles-là ». Ce que moi j'ai constaté dans ces contextes où on faisait un usage abondant du mot de pardon, c'est plutôt ceci, c'est-à-dire plutôt l'habilitation de la victime au moment où elle dit « Non, je ne veux pas pardonner ».
William Goubert.
En l'an 2000, au moment du grand jubilé de l'Église catholique, le pape Jean-Paul II avait promis une très grande démarche d'examen de conscience historique et une démarche de repentance pour un certain nombre de choses qui s'étaient produites dans l'histoire du catholicisme et qui a amené les catholiques de la toute fin du XXe siècle, enfin du tournant du millénaire, a demandé pardon pour l'Inquisition, a demandé pardon pour l'esclavage, a demandé pardon pour la participation de catholiques à ces différentes choses. L'antijudaïsme, il y avait sept chapitres. Est-ce que, Olivia Bell, est-ce que ça a un sens de demander pardon pour des crimes qui ont été commis par d'autres que vous, mais qui sont quand même vos ancêtres?
Voilà, ça c'est une énorme question. C'est la question des collectifs, des mémoires transgénérationnelles hein, qui nous voilà. Je pense qu'il y a des conditions quand même, c'est-à-dire que en fait les conditions du pardon ordinaire, je dirais, ne sont pas réunies parce que justement les victimes ont disparu, et je dirais même les enfants des enfants des victimes ont disparu, les coupables aussi, et des enfants des coupables ne sont pas coupables évidemment, donc il y a des décalages de toutes sortes et puis on a affaire à des mémoires enchevêtrées et souvent avec des crimes souvent trop grands pour être punis hein. Hannah Arendt disait aussi qu'on ne peut pardonner que ce qu'on peut punir, donc là on peut plus punir, etc. Donc, toutes les conditions du pardon ordinaire ne sont, je dirais, brouillées ou bousculées. Mais, néanmoins, ça a peut-être du sens à condition que celui qui parle, en quelque sorte, ne fasse pas l'économie du travail de mémoire. C'est ça qui est le point le plus important sur lequel d'ailleurs Paul Ricoeur avait insisté dans son livre La mémoire, l'histoire, l'oubli. C'est-à-dire qu'en fait, on peut énoncer un devoir de mémoire, on peut aussi énoncer un pardon, ça, mais le travail, ça demande un travail, et le travail, il faut quand même le faire. Et personne ne peut faire ce travail à la place de tout le monde. Donc, quelqu'un qui s'exprime au nom d'une collectivité doit, en quelque sorte, doit manifester qu'il représente, qu'il y a un travail de représentation collectif du passé à faire. Dans ce travail de représentation du passé, la représentation du passé aussi doit être en quelque sorte retravaillée, reconfigurée, etc. Et c'est ce travail qui parfois manque d'une certaine manière. Et donc il ne faut pas le court-circuiter.
Vous êtes d'accord avec cette idée, Sandrine Lefranc, oui, que tout travail toute demande collective de pardon, si elle n'est pas accompagnée d'un travail de mémoire collectif lui aussi, ça vide de sens finalement cette démarche.
Ces démarches-là disent surtout un changement des représentations, des violences. Enfin voilà, on prend acte du fait que ce qu'on ne considérait pas comme un abus sexuel devient un abus sexuel. On prend acte du fait que ce qu'on considérait comme une guerre légitime ou comme une répression légitime devient illégitime. Donc ça dit cela. J'ai néanmoins, alors en tout cas ce que je constate dans les contextes que je connais, c'est que ce travail de mémoire est souvent imparfait. Le mot de pardon est souvent accompagné d'un discours qui veut une symétrie morale, ou en tout cas qui n'entreprend pas non plus de construire une vérité. En Afrique du Sud, on était assez loin de ça. On voulait par exemple que l'ANC porte une responsabilité, le Congrès national africain, donc les opposants à l'apartheid, porte une responsabilité au même titre que le Parti national architecte de l'apartheid. Donc c'est plutôt aussi un moment où on lisse les responsabilités. On commence, on ouvre, on dit on va y penser, mais on repousse ça un petit peu plus tard parce que d'abord ce qu'on veut c'est la paix politique, le calme.
Mais je reviens à ce que vous dites sur le fait que finalement peut-être le fait que ces demandes de pardon soient importantes aujourd'hui, c'est lié aussi au fait que on apprécie différemment la gravité, la violence qui peut être celle des actes pour lesquels on demande pardon plus tard. Mais est-ce que ça veut dire que il peut difficilement y avoir une demande de pardon instantané, c'est-à-dire pour des crimes qui ont été commis par des gens qui vont pouvoir répondre directement de ces crimes? Est-ce que ça, c'est toujours beaucoup plus compliqué?
On est dans un contexte institutionnel et ceux qui commettent les violences qu'on leur reproche, au moment où ils les commettent, ne considèrent pas qu'elles sont des violences. Je pense à l'exécuteur nazi ou à ce prêtre pédophile qui, sans doute, ne se représente pas la violence ou l'abus sexuel comme tel. L'abus sexuel, c'est quelque chose, au fond, d'assez récent. En tout cas, le considérer comme un crime est une chose qui date des années 60. Certains sociologues l'ont bien dit, Yana King a travaillé là-dessus. Donc ça ne peut pas être dit sur le moment et c'est plutôt effectivement des discours sous contrainte du collectif où l'on admet que la chose devient un crime.
Et si ces discours sont sous contrainte, Olivier Abel, est-ce que là aussi ça vide de sens ces demandes de pardon? Vous voyez, est-ce qu'il faut qu'il y ait une forme de volontarisme pour qu'il y ait une sincérité et donc qu'il y ait une efficacité?
C'est forcément dialectique parce qu'en même temps, le pardon... Il mature, enfin la demande de pardon comme le pardon peuvent maturer en sous-main, par-dessous, et puis soudain trouver une expression qui les catalyse, parce que c'est une parole le pardon quand même, c'est pas justement la continuité du silence. Le pardon c'est quand même, les scènes de pardon sont quand même des échanges de paroles qui viennent briser le silence. Ça c'est quand même un point important, je pense, à souligner. C'est pas juste un processus, il y a soudain une parole qui soudain vient déplacer un peu tout le monde. Je pense que c'est dialectique parce que parfois, une parole peut faire avancer tout le monde et du coup peut déplacer, peut débloquer une situation et libérer la parole d'une autorité, d'un responsable, peut libérer la parole collective, peut ouvrir, non pas être préparé par tout un travail de dissensus, collectif, mais ouvrir une période de dissensus qui va être utile à la mémoire collective, même politiquement d'une certaine manière.
Ah oui, alors là, on a un vrai paradoxe, ça, c'est Arendt et la naissance, le miracle en politique, c'est-à-dire l'idée qu'on ouvre quelque chose qu'on n'avait pas prévu. C'est effectivement une possibilité, c'est une possibilité accidentelle. Ce qui se passe quand même dans les moments où une autorité politique parle de pardon, c'est davantage un moment où on veut éviter ce type d'accident et éviter que la parole ne vous déborde. Éviter notamment que les victimes s'emparent complètement de la parole qui leur est donnée. Mais vous avez raison, on est déjà sorti de l'excuse, de ce qui vous exculpe, et c'est déjà pas mal.
Peut-être
mais...
Oui, pardon, allez-y. Excusez-moi, juste un mot. C'est peut-être que la scène, quelque chose a aussi à changer, c'est que autrefois la justice, parce qu'en fait le pardon a à voir avec la justice. Hein, ce sont deux scènes différentes avec des institutions, je dirais presque différentes aussi, en tout cas des manières de.
Et oui, parce que la justice n'est pas là pour pardonner.
Voilà,
elle n'est pas là pour juger.
Mais justement, on a mis vraiment toujours l'accent dans la justice sur le jugement, sur le moment du jugement. Et maintenant, peut-être que ce dont le pardon est contemporain, c'est du fait que la scène de la justice s'élargit à tout le travail justement de formulation de la plainte et d'écoute de la plainte, parce que justement la justice c'est le tiers. Personne ne va justement, on se dessaisit du droit de juger, donc la victime se dessaisit du droit de juger, elle reporte le, tandis que le pardon justement c'est pas en tiers, c'est pas un tiers, c'est moi-même qui vais me plaindre. Et donc comme on est à une époque, je dirais, ce que disait Annette Wieworka, l'ère du témoin. C'est-à-dire, en fait, maintenant, on met l'accent et les caméras vers le témoignage. Et donc, les témoins, dans leur langue, dans leur vécu, dans leur émotion, sont présents, si je puis dire. Et donc, le temps de l'écoute de la plainte, a pris plus de place. Et du coup, ça rouvre à la fois la possibilité de la vengeance, mais aussi la possibilité du pardon. Puisque le pardon, comme la vengeance, ça se fait à la première personne. C'est pas un tiers qui le fait.
Et d'ailleurs, on entend souvent dans les comptes rendus d'audience, soit les victimes, soit leurs représentants qui peuvent déplorer, par exemple, le fait que la personne qui est accusée n'ait pas exprimé de regret, n'ait pas demandé pardon.
Exactement.
On voit bien que le jugement ne suffit pas toujours, Guillaume Goubert.
Il y a quelques mois, il y a un essayiste américain, David Riff, qui a publié un livre qui s'appelle « Éloge de l'oubli ». Et effectivement, on voit dans certaines circonstances historiques, comme par exemple Henri IV au moment de l'édit de Nantes, qui a dit « oublions ce qui s'est passé avant et allons vers l'avant ». Il y a, je crois, Louis XVIII aussi, au moment de la Restauration, qui avait choisi pour devise, en quelque sorte, « union et oubli ». Sandrine Lefranc, est-ce qu'à certains moments, un corps social fait mieux d'oublier que de travailler sur la mémoire?
Oui, alors ce travail de David Riff et beaucoup d'autres est surtout l'illustration d'un doute croissant sur les politiques de mémoire et sur le fait qu'au fond, ce volontarisme, a priori noble et vertueux, a priori très attentif aux besoins de la victime, produit peu d'effets. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire et est-ce qu'il sert à quelque chose en permanence d'enjoindre au devoir de mémoire?
Mais c'est quoi? C'est plus le constat d'un échec ou c'est plutôt la volonté de se dire, bah voilà, ça y est, on a fait cette démarche-là et maintenant, passons à autre chose?
C'est un constat d'échec et c'est aussi une reconnaissance de la vertu, de la part de Riff et de quelques autres, une reconnaissance de la vertu de l'amnistie. C'est-à-dire qu'au fond, plutôt que ces politiques de mémoire ou ces politiques d'appel au pardon qui semblent un peu parfois enlisées dans leur hypocrisie ou qui semblent faire une place à la victime sans tout à fait lui laisser la place qu'elle revendique, c'est une manière de dire, eh bien, allons-y franchement, tranchons, reconnaissons que nous n'avons pas à regarder le passé et tentons de construire quelque chose. Ou autre version, préoccupons-nous plutôt de justice sociale que de réparation individualisée à des victimes.
Alors, je trouve ça intéressant ce terme justement d'amnistie, Olivier Abel. Est-ce que demander pardon, c'est espérer obtenir une amnistie?
Je pense que l'amnistie, c'est autre chose. Je pense que l'amnistie, c'est vraiment... Bon, d'abord, il y a des abus d'oubli, comme il y a avec des abus d'amnistie, de prescription, etc., comme il y a des abus de mémoire, c'est-à-dire des excès de mémoire, des essais de... Nous sommes dans une société quand même qui a une capacité de commémoration prodigieuse, mais du coup avec peut-être, j'irais, une sorte de ressassement du passé. Il y a peut-être des sociétés plus jeunes qui ont un rythme du rapport au passé plus rapide, moins de ressassement peut-être. Mais du coup, il y a aussi des sociétés très jeunes, des sociétés émergentes, je penserais particulièrement à la Turquie, qui a une capacité d'amnésie absolument effrayante. Je dirais d'ailleurs que cette amnésie, elle a été programmée déjà par Atatürk, dans la mesure où on a changé l'alphabet, ce qui fait que les enfants ne lisaient même plus les lettres de leurs parents. Vous voyez, c'est des exemples de choses qui ne... C'est pas une volonté d'amnésie, mais ça fabrique une amnésie massive dans la société.
Bon. Et je vous parlais d'amnistie, vous me parlez d'amnésie.
Oui, je fais exprès parce que je pense que voilà, il faut commencer par situer les deux grands abus sur lesquels ça se situe. Mais l'amnistie elle-même, c'est une technique, je dirais, presque juridique ou de politico-juridique, qui, à mon avis, a aussi son sens. Là, je voulais plutôt prendre la défense de l'amnistie et de la prescription en disant que voilà, les sociétés, il y a deux temps. Il y a un temps pour arrêter le malheur. Il y a un temps pour arrêter la spirale de la violence, du conflit, etc. Et c'est pas un hasard si tous ces moments où on essaye de sortir de la représaille et de la, sont des moments où on dit, on fait silence, on arrête le mal, on n'en parle plus. Henri IV, pour l'édit de Nantes, la guerre des Athéniens, la guerre civile à Athènes, d'autres exemples comme ce que vous avez dit. Donc là, il y a un temps court qui est le temps pour arrêter le mal. Mais c'est parce que plus tard, il faut que le temps long dans lequel on va rouvrir la mémoire et frotter, je dirais affronter les mémoires les unes aux autres. Et donc là, il faut parler. Il y a un silence, une amnistie première qui demanderait un silence total et définitif, parlons de la guerre d'Algérie par exemple, c'est absolument scandaleux. Il y a un temps pour arrêter, mais après il y a un temps pour parler un peu plus tard.
Et c'est un peu la difficulté qu'on observe en Espagne actuellement, c'est-à-dire qu'il y a c'est effectivement ce temps d'oubli au moment de la chute du régime franquiste, et peut-être que ce temps d'oubli a duré un peu trop longtemps, et aujourd'hui on le voit dans le cas de la Catalogne, on voit remonter des sentiments très très violents qui renvoient à la guerre civile des années 30.
Tout à fait.
Ouais. Mais on ne peut pas mélanger dans le même temps, dans un temps court, Sandrine Lefranc, qui reviendrait à stopper les violences et en même temps à faire cette demande de pardon et à engager les réparations.
Moi, ce que j'ai vu, les demandes de pardon que j'ai croisées, étaient des demandes qui étaient motivées par le souhait d'une amnistie. Je pourrais vous raconter l'histoire d'un ancien ministre sud-africain qui va jusqu'à proposer de laver les pieds de sa victime, un militant de l'ANC. Pourquoi le fait-il ? Il le fait parce qu'il craint des poursuites pénales. Il le fait aussi parce qu'il est converti, récemment converti. Il le fait avec beaucoup d'emphase et beaucoup de sincérité. Et pourtant, quelques mois plus tard, lorsque le procès a lieu, il tente à nouveau de s'excuser. Donc il y a quand même très largement un lien fort entre la contrainte, le souhait de l'amnistie, la menace de la poursuite. Le pardon est quand même assez fréquemment associé à l'évitement de la justice, à l'évitement de la responsabilité pénale.
Et comment est-ce qu'on fait quand on passe justement à la dimension de la réparation, quand le temps qui s'est écoulé est un temps long? Je pense par exemple à la question de la colonisation. À la colonisation, il y a aujourd'hui des revendications qui sont faites, à la fois, non pas seulement pour obtenir une demande de pardon, mais également pour obtenir des réparations. Certaines associations, par exemple, demandent aussi des réparations financières. Ça pose aussi un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire finalement, comment est-ce qu'on sanctionne, comment est-ce qu'on condamne une collectivité qui, en plus, renvoie des responsabilités qui appartiennent au passé, Sandrine Lefranc?
Comment on fait le lien entre la victime et l'arrière-petit-fils de la victime? Alors ça, c'est un problème philosophique qui ne trouve pas de solution très franche. Mais j'ai une autre interprétation, et au fond, ça vaut aussi pour des crimes commis plus récemment. Mon interprétation, c'est que ce sont aussi souvent ces demandes de réparation faites par des collectifs de victimes, une autre manière de faire entendre une demande de justice sociale ou une demande de reconnaissance politique. Et là, on peut prendre un peu plus de distance vis-à-vis de la logique de la demande de réparation. On est au fond non plus la victime, enfin l'arrière-petit-fils de la victime, mais quelqu'un qui estime avoir été lésé du fait d'une injustice passée. C'est un peu différent.
Olivia Bell.
Oui, moi, donc philosophiquement, je pense à Hannah Arendt qui, en 1945, dans La culpabilité organisée, donc elle voyage et elle s'aperçoit que en Allemagne, ce qui s'est passé, c'est que les nazis ont organisé la culpabilité de manière, en jouant d'ailleurs sur la vieille fibre protestante luthérienne, l'idée qu'on est tous coupables, l'idée qu'on retrouve chez Lévinas, qu'on retrouve chez Dostoïevski, mais on est tous coupables. Mais du coup, ça, c'est trop facile, parce que du coup, ça noie complètement le poisson, je dirais, des responsabilités individuelles et des responsabilités pénales. Il y a quand même des vrais criminels qui vont se noyer dans la masse sous le prétexte de la culpabilité générale. Donc il faut faire attention à bien séparer ces deux scènes. Ça, c'est quelque chose que Karl Jaspers avait fait, qui était donc un des maîtres de Hannah Arendt, et qui distinguait différents types de responsabilités, la responsabilité pénale de la responsabilité politique. Et justement, le danger, alors là, pour le coup, des procès de Nuremberg, etc., c'est l'inverse, c'est d'aller chercher quelques boucs émissaires, et après, tout le reste est lavé, on va dire. Et là, c'est une autre responsabilité, ce n'est plus pénal, mais la responsabilité politique, qui est, je dirais, devant l'histoire, devant les survivants de l'histoire, eh bien, elle reste. Il faudrait ouvrir, le gradient de la responsabilité, depuis les responsabilités les plus imputables individuellement, jusqu'aux responsabilités les plus collectives. Et là, c'est là que nous avons, nous aujourd'hui, nous qui ne sommes pas des coupables, nous sommes quand même responsables. C'est-à-dire, nous pouvons nous déplacer pour prendre sur nous une responsabilité historique. Mais c'est pas c'est une démarche proprement politique à mon avis.
Vous parlez, Olivia Bell, de cette facilité du tous coupable des luthériens. Est-ce qu'à l'inverse, alors là je parle sous l'autorité du directeur de la Croix, Guillaume Goubert, il n'y a pas aussi une facilité du pardon du côté des catholiques, c'est-à-dire il demande beaucoup pardon en ce moment.
Oui. Alors c'est le problème de les politiques du pardon. Il touche là par rapport pour l'Église romaine, l'Église catholique, quelque chose de très particulier. Je pense que nous héritons d'un très très anciens systèmes, nous tous, l'Église catholique particulièrement, dans lesquels le droit de pardonner, c'est le droit de grâce, c'est un droit régalien, c'est royal, et d'ailleurs ça vient de Dieu, c'est vertical. Et donc il y a une conception, il y a un certain théologico-politique de la verticalité dans lequel le pardon vient d'en haut, mais aussi la punition, à moi la vengeance, et à moi la punition, et à moi le pardon, on pourrait dire avec Dieu. Et donc du coup, si l'institution devient en quelque sorte l'institution qui a le monopole du pardon, si je peux dire, elle s'inscrit dans ce théologico-politique vertical. Moi, je dis pas du tout que l'Église catholique ne fait que ça. Il y a plein d'autres démarches qui sont des démarches beaucoup moins, je dirais, régaliennes que cela. Mais je pense qu'il nous faut absolument renoncer à cette conception du pardon. Je signale d'ailleurs, au passage, que Jésus, ce qu'il dit, c'est que le droit de pardonner appartient à tout le monde. et pas du tout au roi, justement. Donc il propose un véritable bouleversement de cette idée.
Juste avant de redonner la parole à Guillaume Goubert, cette dimension en tout cas religieuse, vous l'avez retrouvée, vous, justement, dans les cas que vous avez observés de politique de réconciliation?
Oui, elle est souvent très présente, c'est-à-dire qu'il faut quand même des rituels et il faut pouvoir s'appuyer sur un discours légitime. En Afrique du Sud, si on parle de pardon avec beaucoup d'aisance, c'est parce qu'on est complètement imprégné d'une culture protestante. Mais je voudrais souligner quelque chose, ça n'est pas seulement une affaire religieuse, cette abondance de pardon aujourd'hui, c'est aussi une manière que je trouve un petit peu contestable de concevoir ce qui s'est passé, le crime, comme une relation individuelle. Il en resterait une relation entre la victime et son bourreau. Il en resterait une relation qui serait de l'ordre du soulagement de la victime et d'une réparation qui serait une réparation morale. Dans les contextes où politiquement le pardon est très largement utilisé, on met l'accent sur ce soulagement psychologique de la victime. Aussi parce que de cette manière, on peut écarter d'autres demandes, d'autres contestations, d'autres discours. Donc on baigne un peu dans une dissolution individuelle du problème.
Non, je voulais juste dire à Olivier Abel que, heureusement, dans la théologie présente de l'Église catholique romaine, l'idée de demander pardon à Dieu et aux frères est quand même très très importante. Le « et aux frères » est très très important. Et c'est bien ce qui s'est passé. Ce qui me frappe dans les démarches présentes, notamment de l'Église catholique, mais pas seulement, c'est qu'il y a des demandes, comment dire, de pardon, de reconnaissance, de responsabilité, etc., à répétition, et que ça ne fonctionne pas. Et d'une certaine façon, je reviens à ma première question, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait pour que de telles demandes, je vais employer un mot terrible, mais éteignent d'une certaine façon le conflit, Sandrine Lefranc.
De la sincérité, peut-être.
Notamment.
Ou je proposerais.
Je pense que les demandes de pardon de l'Église catholique actuellement sont sincères, mais elles ne suffisent pas à.
Bon, alors, vous concède une sincérité dont je ne suis pas tout à fait convaincue, mais il faudrait examiner cas par cas, j'imagine qu'il faudrait, enfin, qu'un utile complément serait un discours de vérité, je vais le qualifier comme ça, c'est-à-dire, par exemple, ne pas reconnaître l'abus sexuel comme le produit, le même Scott Morrison qu'on a entendu tout à l'heure parler de crime maléfique, c'est-à-dire qu'on est aussi dans l'idée du diable qui vous anime. On n'est pas dans la pulsion individuelle, là, on est dans l'excès institutionnel et que peut-être ce qui manque, mais qui peut être provoqué par ce flot de demandes de pardon, c'est un discours qui montre que c'est bien une éducation institutionnalisée, une conception de l'éducation qui se manifestait dans cette facilité à sexualiser les enfants et à en faire des jouets.
Olivia Bell.
Oui, d'abord, je pense que qu'il est important, donc tout d'abord, j'ai parlé du pardon comme parole. Je pense que c'est très important de sentir que d'éprouver que cette parole n'est pas magique. C'est une parole, on disait intimidée tout à l'heure, une parole incertaine, une parole qui dépend de sa réception. C'est aussi une parole qui travaille et qui demande, qui présuppose et qui génère du travail. Je dirais dans deux directions. D'abord, il peut y avoir un conflit des mémoires. Et donc, ça met la mémoire au travail. C'est-à-dire, il faut à la fois élargir son langage, comprendre presque un problème de traduction, à entendre le langage des autres, entendre la narration des autres, entendre l'histoire des autres. Voilà. Donc, peut-être pas aller jusqu'à un échange des mémoires, parce que justement, il y a de l'insubstituable, il y a de la blessure, etc. Mais quand même faire ce travail de mesurer comment qu'il y a ce conflit. Bon, et puis, il y a un travail par rapport, presque au sens un peu plus psychanalytique, par rapport à un trauma dans lequel il y a de l'irréparable. L'irréparable, ce qui le caractérise, c'est qu'on ne peut ni se souvenir, ni s'en souvenir complètement, sainement, je dirais, ni l'oublier. Donc il est là, il n'est pas fini. Bon, donc il y a ce travail de mémoire qui est en même temps un travail de deuil, parce que justement, peu à peu, il faut arriver à se séparer du passé. Il faut que le passé n'écrase plus le présent. Mais pour ça, il faut le reconnaître. Il faut faire un travail de sépulture. Il faut le reconnaître là où il est. Voilà, c'est pas magique. C'est une parole qui travaille. Voilà, c'est la première chose que je dirais finalement.
Ce travail de mémoire et de sépulture, j'évoquais un de vos derniers ouvrages, Sandrine Lefranc, avec Sarah Gainsbourger. À quoi servent les politiques de mémoire? Sarah Gainsbourger qui a aussi travaillé sur la mémoire traumatique, disons, des attentats en France de 2015.
Je n'aimerais pas cet
adjectif. Oui, sans doute pas. C'est pour ça que en le disant, j'ai presque mis des guillemets autour. Mais en tout cas, est-ce que dans ce cas-là, on peut envisager, alors justement, une politique de pardon, une rhétorique du pardon, ou bien est-ce que l'irréparable est à ce point irréparable, justement, que c'est aujourd'hui quelque chose qu'on ne peut pas demander aux victimes. Encore faudrait-il d'ailleurs savoir qui demanderait
qui
pardon.
Qui demanderait pardon, ouais. C'est-à-dire que je continue à croire, mais peut-être me tromper, que c'est l'auteur du crime qui demande pardon et qu'il le fait d'abord à la victime, peut-être aux frères et à Dieu, mais aussi à la victime. Donc effectivement, ça me paraît une attente assez infondée. Mais par ailleurs,
il y a des personnes qui ont été incarcérées. Alors il y a des terroristes qui ont été évidemment tués pendant ces attentats, mais il y en a d'autres qui ont été complices de ces attentats, qui pourraient, on ne sait pas, pendant leur procès ou après leur sortie, faire cette demande de pardon.
La culpabilité vient difficilement et souvent tardivement, c'est-à-dire qu'il faut avoir compris longtemps qu'on s'était trompé sur l'interprétation de son acte pour y parvenir. Je veux juste souligner une chose, enfin, j'entends avec beaucoup de bonheur cette idée du travail de deuil et de sépulture, mais le paradoxe, c'est qu'on a tellement parlé de pardon dans un contexte politique que cette idée même de travail de deuil a fini par s'imposer aux victimes. C'est-à-dire qu'on leur demande de bien vouloir respecter les étapes, selon le code de la procédure psychanalytique, du travail de deuil. Et on finit par leur imposer cela, leur imposer un discours psychologique et psychanalytique, leur demander au fond d'être de bonnes victimes, c'est-à-dire traumatisées. Mmh. Soyez traumatisées, même si vous ne ressentez pas le trauma. On peut être une victime et ne pas être traumatisée. Je suis comme Sarah, je suis agacée par cet adjectif, ou en tout cas par son usage systématique. Il faut être traumatisée, il faut être résiliente pour être une bonne victime. Il faudrait juste remettre ce discours à sa place, c'est-à-dire considérer que c'est une manière possible de vivre le crime et le souvenir du crime.
Oui, vous avez raison, tout à fait, je suis tout à fait d'accord, et la mélancolie, elle peut être interminable.
Ou la colère.
La colère, bien sûr, oui. Mais la colère encore, ça peut être une manière de rompre avec le passé. Parce que le pardon, on croit trop que c'est gentil. Le pardon, c'est une rupture. C'est une rupture. Quand je parlais de parole, ça peut être quelque chose qui coupe quelque chose. C'est pour ça que quand on dit pardon, on parle de trop de choses, beaucoup de choses différentes. Il y a beaucoup de significations différentes.
Une rupture qui peut être aussi une rupture historique. Dans le journal La Croix, vous avez notamment cette phrase, dans certains cas en tout cas, le pardon fait bifurquer l'histoire. Dans quel cas, par exemple, pour terminer
Je n'ai pas un exemple qui me vient tout de suite, mais c'est
je pense à Willy Brandt, moi, par exemple, à Varsovie,
ça, c'est un bel exemple. Parce que c'est pas prévu. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas un truc calculé, c'est pas une politique.
Alors, il va s'incliner devant le mémorial des victimes du ghetto de Varsovie.
S'agenouiller. Et donc ça le prend soudain, et c'est ça qui fait que soudain tout le monde est déplacé, parce que lui-même, il se passe quelque chose, et donc il le fait devant tout le monde. Et là, je pense qu'en effet, à ce moment-là, il se passe quelque chose de qui fait travailler. Enfin, il faut arrêter avec le mot travail d'ailleurs.
aussi avec beaucoup de mots qu'on a plus le droit d'utiliser.
Il n'y a pas que le boulot dans la vie, il n'y a pas que le travail dans la vie. Il y a des choses qui arrivent. Comme disait Derrida, ça peut arriver simplement.
Donc quand c'est consensuel, c'est douteux.
Voilà.
Et donc ça fait bifurquer l'histoire.
Oui, ça fait bifurquer parce que ça rouvre. Le pardon, d'une certaine manière, c'est une surprise qui rouvre dans le passé d'autres avenirs du passé qui étaient absolument non perçu, ça fait nous voir nous-mêmes autrement, ça fait revoir le passé autrement, ça déplace tout le monde. C'est ça qui est passionnant dans ce genre de choses qui arrivent quand ça arrive.
Sandrine Lefranc, il y a des processus de réconciliation nationale qui ont fait bifurquer l'histoire.
Il y en a sans doute, mais je crains que le procès pénal soit un outil plus efficace que l'agenouillement.
Partie, pour moi, c'est justement la justice. Il ne faut pas que le pardon court-circuite la justice, mais la justice elle-même doit intégrer justement la diversité de ces scènes, sans doute.
D'ailleurs, le pardon peut exiger la justice.
Voilà, il exige.
On n'a pas évoqué d'ailleurs le terme de justice transactionnelle, je crois.
Transitionnelle.
C'est la fatigue, hein, voyez. Non, vous me faites tellement peur avec les mots que j'utilise.
C'est une transaction, vous l'avez révélée à elle-même.
Voilà, mais en tout cas, on voit bien aussi que ce sont des processus qui sont assez parallèles. Enfin, les uns accompagnent les autres, non, aujourd'hui, Sandrine Lefranc. C'est-à-dire que ces demandes de pardon, elles ne sont pas isolées. Il y a aussi...
C'est l'ère du temps qui veut qu'on cherche une autre manière de rendre la justice aussi. On n'a pas les moyens de rendre la justice pénale, alors on cherche des réparations, un musée, une vérité, un discours de reconnaissance.
La justice comprend la vengeance. Moi, si on relit l'Orestie d'Eschyle, il y a justement tout ce mouvement par lequel la course à la vengeance va peu à peu, le divin même même de la, des divinités de la vengeance, les Erini, va devenir les bienveillantes, les Euménides. Et ça, c'est la naissance du politique, c'est la naissance de la justice elle-même.
Alors on se souvient, justice transitionnelle et non pas transactionnelle, mémoire traumatique, on oublie cette expression. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission, Sandrine Lefranc et Olivia Abel. Vos ouvrages respectifs, c'est sur notre site internet. Vous pouvez réécouter l'émission, vous pouvez évidemment lire le journal La Croix tous les jours. Et aujourd'hui, la question du jour, elle vous était consacrée, enfin, en tout cas vous répondez à la question qu'on posait, demander pardon, vaut-il réparation ? Merci à toute l'équipe du Grain.